Chaque samedi à midi, du citoyen au politique, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
Nous avons eu l'occasion d'échanger, de se dire que pour ceux qui concernent ce pacte, c'est ce que les élus du Congrès ont dit, on est en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est que on va continuer à travailler pour voir comment on pourrait améliorer. L'objectif étant de dessiner ce qui serait les axes essentiels de ce que je pourrais appeler le socle de l'avenir.
Le compte n'y est pas. Il faut continuer à travailler pour améliorer le pacte proposé par Bruno Le Maire pour sauvegarder la filière nickel, poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Ce jeudi, le président du gouvernement calédonien, Louis Mapou, répond à la presse et aux injonctions de Paris qui demandaient au même moment une signature de ce pacte nickel avant fin mars. Car la filière est exsangue. Les fours de l'usine du nord de l'archipel sont à l'arrêt. Les trois usines d'extraction et de traitement présentent des résultats négatifs depuis plus de 10 ans, alors que la demande mondiale explose. Face à des élus inquiets d'une éventuelle perte de souveraineté minière et fiscale, la signature de cet accord est renvoyée à une validation du congrès des élus calédoniens prévue la semaine prochaine. Mais face au risque de casse sociale et de crise économique majeure pour un secteur qui représente 20% du PIB et un quart des emplois privés de l'archipel, nombreux sont ceux qui crient au chantage de l'Hexagone. Que se passe-t-il dans la filière nickel en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi de telles tensions entre gouvernement à Paris et gouvernement à Nouméa? Comment se positionnera le FLNKS, parti indépendantiste dont le congrès se tient en ce moment même? Lundi dernier, les élections provinciales ont finalement été repoussées à décembre prochain, le temps de laisser le Parlement se saisir de la réforme constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie et de son corps électoral. 2 ans après le dernier référendum sur l'autodétermination de l'archipel, comment cette crise qui s'annonce peut-elle jouer sur ces débats qui débutent ce mardi 26 mars au Sénat avant un vote solennel le 2 avril prochain? Bonjour Benoît Trépied.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS. Vous avez signé une mairie dans la France coloniale, Koné Nouvelle-Calédonie, parue chez Cartala en 2010. Et vous avez dirigé la Coutume Kanak dans l'État, perspective coloniale et postcoloniale sur la Nouvelle-Calédonie, chez l'Harmattan. C'était en 2017. Benoît Trépied, que se passe-t-il dans la filière nickel? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie est au bord de la crise sociale?
C'est ce qu'on peut craindre effectivement, puisque la situation du nickel est devenue extrêmement préoccupante sur place du fait de plusieurs facteurs, à la fois des problèmes techniques métallurgiques, l'explosion des coûts de l'énergie qui a très fortement touché la Calédonie, d'autant qu'elle est difficilement engagée dans une dynamique de transition énergétique du point de vue de l'énergie. Et puis la concurrence internationale dans ce secteur, avec en particulier l'Indonésie qui essaye d'écraser toute la concurrence en ce moment.
Qui a véritablement cassé les prix,
voilà,
effectivement.
Qui essaye d'asphyxier, disons, ses concurrents. Et donc, autant le nickel calédonien a eu une embellie, le climat était au beau fixe au début des années 2000, autant là, depuis un certain temps, ça devient vraiment extrêmement critique.
Ce qui nécessite donc une aide de Paris, on parle de 24 millions de francs pacifiques, une aide qui serait donc en partie proposée par Bercy et de l'autre un apport du gouvernement calédonien. On entendait à l'instant le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dire à Bruno Le Maire le compte n'y est pas, on sent qu'il y a une forme de tension. Pourquoi ça coince ?
Alors, pourquoi ça coince? Il y a des divergences à la fois sur les stratégies de sauvegarde économique, financière, et puis aussi derrière ça sur l'enjeu de ce qu'est le nickel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la maîtrise de cette ressource et la création de valeur ajoutée sur place, c'est le fer de lance du mouvement indépendantiste pour une émancipation de la Calédonie, passant par une espèce d'indépendance économiquement viable. Donc, la lutte des indépendantistes depuis maintenant 30 ans, c'est de faire des usines qu'on contrôle sur place, qui crée de la valeur ajoutée, grâce à laquelle on finance tout ça.
Or, pour être clair, les indépendantistes, en fait, les gouvernements possèdent 51% par exemple de ces usines.
Dans celle du Nord, l'occurrence, qui est portée par le mouvement indépendantiste, du coup, la stratégie, ça a été de dire 51% du capital de cette entreprise est aux mains de la puissance publique, c'est-à-dire de voilà de la province Nord, et 49% c'est un métallurgiste international. Et la grande idée, ce qu'on appelle la doctrine nickel, notamment du FNKS, c'est de dire il faut, pendant toute l'histoire de la Calédonie, toute l'histoire coloniale, on a exporté le minerai brut. Et donc la valeur ajoutée, elle a été créée ailleurs. Donc on a dilapidé notre patrimoine. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer le nickel sur place pour que la valeur ajoutée reste sur place et qu'elle finance les infrastructures publiques, etc. Or là, dans ce moment de tension très forte, l'État dit il faut que vous autorisiez à exporter de nouveau du minerai brut pour des problèmes de trésorerie. Et le FNKS dit non, en fait, c'est pas possible parce que et donc il y a un jeu de négociations extrêmement complexe qui se joue, sachant que ce problème de la filière nickel est bien au-delà d'un problème indépendantiste ou anti-indépendantiste, c'est-à-dire que les trois usines sont dans des situations extrêmement délicates et que si elles ferment, si elles sont en cessation de paiement, etc., ça va être une crise sociale inimaginable à l'échelle de la Calédonie.
Ce qui paraît absolument incroyable parce que bon, on sait que le dossier est stratégique, mais le nickel figure sur la liste des 16 matières premières jugées essentielles par la Commission européenne en mars 2023 et la production des trois métallurgistes pourrait théoriquement représenter à terme jusqu'à 85% des besoins des gigafactories françaises en 2030, voire 14% des besoins de l'Union européenne en 2035. C'est un rapport de l'Inspection générale des finances. Alors, on voit bien que le nickel, il est stratégique pour la France, il est stratégique pour l'Europe, pour la Nouvelle-Calédonie, pour les indépendantistes. Alors, comment c'est possible d'en arriver à une situation pareille ?
Parce que c'est avant tout un marché financier international qui ne prend pas en compte ces enjeux politiques et stratégiques des États. Donc dès lors que qu'on laisse faire, c'est ce que j'ai dit, c'est fondamentalement la crise économique, enfin la crise énergétique, la concurrence. Et puis des problèmes techniques récurrents qui posent problème dans ces usines. Hein. Donc, si vous voulez, à côté de ça, l'Indonésie fait un dumping social total. Aucun respect de l'environnement, des salaires de misère. Et évidemment, le nickel calédonien est de plus en plus difficilement compétitif.
Mmh. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Bruno Le Maire, en l'état, dans ce pacte, exclut complètement la possibilité d'une nationalisation. Quand on entend par ailleurs parler en fait, de souveraineté au niveau européen sur ces ressources, c'est aussi là que le bât blesse avec le gouvernement et les élus de Nouvelle-Calédonie, selon vous ?
En partie, et notamment parce que ce modèle économique porté par le FLNKS, en fait, est vraiment articulé à une idéologie d'économie mixte d'État, c'est-à-dire avec cette histoire du 51%.
Oui, il faut savoir que le S, ça veut dire socialiste.
Voilà, ça veut dire socialiste, alors dans ses déclinaisons pacifiques, c'est assez hétérodoxe. Mais néanmoins, l'idée globale, c'est que la puissance publique contrôle, opère un maintien sur ces enjeux-là. On le sait, c'est pas du tout le modèle dominant à Bercy actuellement, depuis un certain temps.
Alors, de leur côté, les élus calédoniens, on le disait, craignent qu'avec ce pacte, ils perdent de leur souveraineté en matière minière et fiscale. Un point sensible dans un territoire autonome est toujours tendu quant à son droit à l'autodétermination. Et c'est justement dans ce contexte que le débat sur la réforme constitutionnelle du statut de la Nouvelle-Calédonie se présente. Florilège des déclarations de ces derniers jours par June Loper.
Un pas de plus a été fait en direction du report des élections provinciales au 15 décembre. Soit le temps de poursuivre les négociations sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
Il y a ceux qui veulent l'indépendance, il y a ceux qui veulent le maintien dans la République. Ils ne sont pas d'accord entre eux sur cette question cruciale. Mais il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles ils peuvent se mettre d'accord et dessiner un chemin. Le développement économique, la répartition des responsabilités entre les communes, les provinces, le gouvernement, l'État. Il faut donc de nouveaux accords qui permettront de régir les décennies à venir.
Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie, à la suite des accords de Nouméa, a connu trois référendums successifs d'autodétermination. Et par trois fois, les Calédoniens, certes à des scores serrés, mais ont dit non à l'indépendance.
C'est un délai important. Ça nous permettra de réformer la Constitution pour pouvoir dégeler le corps électoral sur 10 ans glissants et permettre à plus de 25 000 des Calédoniens de pouvoir être présents aux prochaines élections provinciales.
Et l'accord de Nouméa prévoyait expressis verbis que si jamais au bout des trois référendums le non l'emportait toujours, alors les partis devaient se réunir afin de constater la situation ainsi créée sans autre forme de formulation, et donc nous sommes dans cette situation.
Oui, mais chez moi. Oh non, je suis né là-bas.
Tu es devenu chez toi.
Mais comment ça, tu
t'es... Mais si, mais si, t'as accepté.
Mais je suis né là-bas,
je pars en
Mais
si, t'as accepté.
Le dialogue impossible entre le député Renaissance Nicolas Metzdorf et Jean-Victor Castor, député de la gauche démocrate et républicaine de Guyane, sur la légitimité à être calédonien en 2024.
Et nous devons les aider à trouver ensemble le moyen de dépasser leurs différences.
C'est en totale liberté qu'Édouard Philippe revient sur le Caillou. Potentiel candidat à la présidentielle de 2027, l'ancien Premier ministre débute son séjour calédonien avec un bonjour coutumier, avant d'échanger avec les sénateurs sur le contexte politique tendu autour de l'avenir du pays.
L'école, l'agriculture, la stratégie économique, le tourisme, tous ces sujets, ils comptent dans la vie quotidienne. Et probablement d'ailleurs, peut-être plus encore dans la vie quotidienne que simplement la question institutionnelle et la question du nickel. Donc c'est avec cet état d'esprit que je vais multiplier les rencontres.
Voilà, vous avez sans doute reconnu Gérald Darmanin, Philippe Bas, sénateur Les Républicains, mais aussi l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui boucle en ce moment même une visite de 3 jours en Nouvelle-Calédonie. Benoît Trépied, comment la crise de la filière nickel et la crise sociale qui s'annonce peut influer sur les débats institutionnels qui s'ouvrent autour de la Nouvelle-Calédonie ?
Le gros souci qui se présente maintenant, c'est que c'est précisément le télescopage de ces deux crises, ces deux enjeux politiques, l'enjeu de la suite des accords de Nouméa, et puis cette crise économique qui menace de devenir une crise sociale sans précédent.
Tout ça se passe dans la même semaine, hein, pour que...
Tout ça, voilà. Ouais. Et donc tout se télescope, de fait. Et le gros risque, c'est que s'il y a une grande crise sociale en Calédonie, ça va raviver les tensions. Ça va rendre des gens disponibles aussi pour des formes de mobilisation les plus radicales qui soient. Et puis se pose aussi la question, c'est ce que disait au tout début Louis Mapou, de la sincérité de l'État dans ça. Est-ce que l'État fait pression ou pas dans cette histoire de pacte nickel à l'échelle des négociations? Donc c'est, voilà, c'est un jeu trouble dont on n'a pas tous les éléments.
Et alors là-dedans, il faut poser les enjeux justement de cette réforme constitutionnelle qui arrive à la fin, enfin la fin du processus et des accords de Nouméa, qui étaient donc 3 référendums sur l'autodétermination. Là-dedans, l'enjeu, c'est quoi? C'est le corps électoral qu'il va falloir modifier, et c'est pour cette raison que les élections provinciales qui étaient initialement prévues en mai sont repoussées à décembre prochain. Pourquoi il faut réviser le corps électoral?
Alors, c'est le nœud du dossier calédonien. La Calédonie a connu une trajectoire de colonisation de peuplement. C'est-à-dire que le peuple autochtone colonisé, les Kanaks, ont non seulement été colonisés, mais ont été marginalisés, puis minorisés démographiquement, et sont devenus une minorité. Et quand la revendication d'indépendance a surgi, ils ont dit c'est nous, en tant que peuple colonisé, qui, au nom du droit des peuples à l'autodétermination, sommes les seuls habilités à nous prononcer sur cette question. En face de ça, l'État français à l'époque a dit « ici c'est la France ». Le principe cardinal de la France est un homme égal une voix. Donc tous les Français qui vivent dans ce pays, et même s'ils ont débarqué il y a 3 mois, ils ont autant de légitimité que vous. On ne reconnaît pas cette particularité. Donc si on fait un vote sur l'indépendance, ok, on va voter. Et puis, manque de bol, comme vous êtes en minorité démographique, vous êtes aussi en minorité électorale, vous allez perdre. Donc tout l'enjeu, les affrontements, la quasi-guerre civile des années 80, était autour de dire qui peut participer. Qui peut s'exprimer sur le futur de cette île-là? Dans les deux camps, on a fait des compromis. Ces compromis ont été fondés sur, je l'ai dit, sur des affrontements, sur des morts, sur des drames, etc. Pour aboutir aux accords de Matignon en 88, renouvelés par l'accord de Nouméa de 98, qui a dit, on considère que les gens qui font partie de ce pays et qui peuvent s'exprimer sur le futur de l'île, ce sont tous les gens, en gros, ce qui a été décidé au terme d'une négociation, c'est schématiquement tous les gens qui se sont installés dans le pays avant la fin 1998 et qui justifie de 10 ans de résidence. Ces gens-là, l'accord de Nouméa a dit d'eux que ce sont des citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est à l'intérieur du corps de la citoyenneté française, il y a une sous-citoyenneté, la citoyenneté calédonienne, qui ouvre à des droits politiques et sociaux particuliers, et notamment le droit politique de voter aux élections locales qui comptent. Voilà.
Et donc, c'est ça qui arrive au Sénat mardi prochain.
C'est ça qui arrive au Sénat parce que, au terme de l'accord de Nouméa, alors on y reviendra, le troisième référendum est extrêmement contesté, donc c'était l'étape fatidique de l'accord de Nouméa. Celle qui comptait, elle a été, disons, court-circuitée, ça a fait plein de compromis.
On y reviendra.
L'accord de Nouméa disant, s'il y a trois référendums, les partis politiques se retrouvent et ils examinent la situation ainsi constituée. Donc, c'est ce qu'ils essayent péniblement de faire, les indépendantistes, les anti-indépendantistes et l'État, discuter et dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sur ce, il y a des discussions, elles avancent, elles n'avancent pas, c'est tout l'enjeu. Mais là, l'État a dit, M. Darmanin a dit, écoutez, ça suffit, ça n'avance pas assez vite. Or, il y a les élections provinciales qui doivent avoir lieu en mai 2024. Moi, je dis, on ne peut pas continuer avec cette restriction du corps électoral. Donc, puisque tant que vous ne trouvez pas d'accord, et en attendant que vous trouviez un accord, on fait sauter cette disposition clé. Ce faisant, c'est simple, c'est répondre à la revendication des partis anti-indépendantistes. C'est-à-dire que c'est vraiment une prise de position qui va dans ce sens-là. C'est, d'une certaine façon, et clairement, ça a été dit par tous les leaders indépendantistes, c'est jouer avec le feu, parce qu'en fait, ils ont toujours dit que cette question du corps électoral, c'était la cause... On pouvait déterrer l'âge de guerre avec ça. Donc, en fait, il y a deux options. C'est soit on continue de discuter, on prend le temps de discuter, parce qu'en fait, ils veulent bien discuter du corps électoral à l'intérieur d'un accord global. C'est-à-dire, c'est pas sans contrepartie. Soit on met la pression comme le fait là, on tente le passage en force, mais ça peut devenir très dangereux à terme.
France Culture, sous les radars, Nora Amadi.
Alors si les questions posées en Nouvelle-Calédonie sont si complexes, si sensibles, c'est parce qu'elles mettent en tension plusieurs légitimités politiques et font apparaître encore à notre époque une question coloniale. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour Nora, bonjour à tous.
Vous avez retrouvé dans les archives plusieurs moments clés de manifestation ou d'occultation de cette question.
Oui Nora, et pour comprendre cette question coloniale, il faut commencer par évoquer l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, la prise d'otage d'Ouvéa entre avril et mai 1988. Le 5 mai, l'assaut du GIGN fait 21 morts, dont 19 militants kanaks. Ce bain de sang est le point culminant de plusieurs années de tensions et la population européenne ou métisse se met à redouter le pire. Écoutez ce témoignage d'un père caldoche, c'est-à-dire un calédonien d'origine européenne, de son épouse mélanésienne et de leur enfant métisse dans un reportage de France 2.
Au vu de ce qui s'est passé dans d'autres colonies et ailleurs, je pense qu'on est sur une mauvaise pente, sur une mauvaise route.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que je pense que faudra faire comme les gens ont fait en Algérie, il faudra partir. Je le pense sincèrement.
Ça vous fait peur ?
Peur, non, ça ne me fait pas peur. S'il faut, peut-être on se défendra.
Vous voulez vous défendre comment ?
Ben, si on ne peut pas avec les mains, avec les fusils.
Comment vous expliquez vous-même, vous qui êtes mélanésienne, que...
Ah ben, je trouve ça vraiment ridicule. On a toujours été amis avec les Européens.
Alors, la question coloniale hante donc les rapports communautaires, mais elle est aussi débattue très officiellement à cette époque dans les comités des Nations Unies, en particulier autour d'un point clé dont vous parliez il y a quelques instants, Benoît Trépied, la définition du corps électoral appelé à se prononcer pour l'autodétermination. Un an avant Ouvéa, en 1987, le leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou liait cette question à la violence politique en marge d'une réunion du comité de décolonisation de l'ONU. Il s'attirait une réponse immédiate du ministre des Outre-mer, le Père Bernard Ponce.
Je pense que la violence, elle est institutionnelle à partir du moment où il y a, comme je l'ai toujours dit, conflit de légitimité entre la légitimité du peuple indigène qui revendique son indépendance et la légitimité installée par le drapeau que nous dénonçons. C'est cela la situation de violence.
Ce qui me paraît incohérent dans l'attitude du FLNKS, c'est qu'il demande un référendum, que le gouvernement de Jacques Chirac propose un référendum et qu'ils ne sont pas satisfaits. En définitive, ce qu'ils veulent, c'est un référendum avec seulement des électeurs qui leur soient favorables. Et ça, la constitution de notre pays ne le permet pas. Il y a en Nouvelle-Calédonie une communauté qui est pluriethnique et tous les membres de cette communauté doivent pouvoir participer à ce référendum d'autodétermination.
Et le choix des mots recoupe les divisions politiques nationales. La droite évoque donc une seule communauté pluriethnique, quand la gauche rappelle la permanence du fait colonial à Nouméa, comme ici Pierre Joxe qui répond à Bernard Ponce à l'Assemblée nationale.
Monsieur Ponce, ne pensez-vous pas que vous avez, vous qui appartenez à un parti qui a fait œuvre de décolonisation, ne pensez-vous pas qu'il manque quelque chose à votre exposé lorsque le concept de décolonisation n'a pas été avancé une fois?
Alors Benoît Trépied, on l'entend à l'instant, il y a deux registres de vocabulaire autour de cette question coloniale à l'époque, donc les années 80, la fin des années 80. Comment interprétez-vous ces deux registres? Est-ce qu'on considérait peut-être dans le camp gaulliste que la décolonisation s'était achevée en 1962?
Oui, à l'époque, ce qui est assez particulier aussi, c'est que, disons que la Calédonie a été, l'enjeu calédonien a été nationalisé par les partis hein, dans les années 80. C'est-à-dire qu'il y avait une alliance très forte, un lien très fort entre Jacques Chirac et Jacques Lafleur, qui était le président du RPCR là-bas. Donc, et que, en gros, en particulier à cette époque, là, lors de la cohabitation de 86-88, Chirac lorgnait beaucoup sur les voies de l'extrême droite, donc avait un discours très très dur qui faisait écho à celui des, disons, du RPCR localement. Et c'est là où ce qui a été vraiment essentiel, c'est quand Michel Rocard a réussi à sortir de l'ornière. Il a réussi pas parce qu'il était tout seul, précisément parce que Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, les leaders des deux camps, ont compris après la grande Ouvéa que la Calédonie fonçait dans le mur et fonçait dans la guerre civile. Ça a été avant tout la négociation close entre ces trois hommes qui a amené une issue que personne n'envisageait à l'époque. Voilà. Et cette issue, ça a été dit là, quand Tjibaou en parlait, ça a été dit récemment encore, c'est conjuguer les légitimités. C'est accepter. Il y avait un célèbre intellectuel, animateur, journaliste kanak, Kiki Carré, qui disait, qui avait reformulé ça au début des années 2000, il disait, nous, notre devise, c'est s'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Et donc, c'est ce que la Calédonie a essayé de déployer pendant 35 ans. C'est ce qui est vraiment terrible, c'est ce qui est maintenant remis en cause.
C'est là tout l'enjeu. Je reviens à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le corps électoral. C'est-à-dire que ce consensus qui s'est créé à l'époque, aujourd'hui, est remis en cause. Cette double légitimité des Caldoches et des Kanaks, là, elle va exploser. C'est ça le risque de cette révision constitutionnelle?
Oui, le risque, c'est que si on touche au corps électoral sans faire un accord global, effectivement, les Kanaks prennent ça comme un acte de guerre, de
colonialité, du
ouais,
coup.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire de, oui. Et il faut bien percevoir aussi que ça s'inscrit dans la continuité du troisième référendum de fin 2021, qui a été contesté et qui continue d'être contesté par le FNKS, y compris devant la Haute Cour de Justice Internationale à La Haye. Et ce qu'il faut percevoir, c'est que il y a eu vraiment une rupture de confiance et l'État est sorti de sa position d'impartialité si chèrement et si durement acquise depuis Rocard en 88, lorsque il n'a pas voulu entendre la demande unanime de report du référendum.
Alors justement, on va arriver sur ces questions institutionnelles, Benoît Trépied. Antoine, cette question coloniale assumée ou non, du coup, a poussé hein, les pouvoirs publics à apporter des réponses institutionnelles à la crise en Nouvelle-Calédonie depuis les années 80.
Oui, Nora, et même de façon très audacieuse et très tôt, en janvier 1985, Edgar Pisani, qui vient d'être nommé haut commissaire de la République, propose une solution institutionnelle originale, l'indépendance association pour le territoire, qui jouerait donc d'une souveraineté, mais resterait liée à la France. Mais ce plan n'est pas suivi d'effet. En 1986, donc, c'est la cohabitation. Un an plus tard, en 87, Bernard Ponce, que vous entendiez il y a un instant, et la droite au pouvoir organise un référendum d'autodétermination boycotté par les Kanaks. En 88, nouveau changement de majorité à Paris. Et cette fois-ci, tous les acteurs acceptent de se parler. Les accords de Matignon sont signés le 26 juin autour du Premier ministre Michel Rocard.
Je veux leur dire, reprenez espoir. Une page nouvelle va pouvoir s'écrire, non par les armes, mais par le dialogue, par la tolérance, par le travail, par la volonté. Ceux qui, ici à Paris, ont parlé en votre nom, ont fait preuve de courage et de responsabilité.
Et selon les termes de ces accords, une consultation sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie doit avoir lieu 10 ans plus tard, délai repoussé par de nouveaux accords signés à Nouméa en 1998 autour de Lionel Jospin. Cette fois-ci, Michel Rocard fait partie de la délégation gouvernementale et il salue avec un brin de malice l'innovation juridique majeure de ces nouveaux accords, la création d'une citoyenneté calédonienne prévoyant des droits spécifiques dans le cadre de la citoyenneté française.
Je savoure à l'avance la perplexité profonde des professeurs de droit public
devant la nouveauté et l'étrangeté de l'objet constitutionnel que vous venez d'inventer ensemble. Mais le droit ne remplit sa fonction civilisatrice que s'il colle à la vie. Il faudra bien qu'il s'y plie.
Alors, les trois scrutins d'autodétermination prévus par les accords de Nouméa sont organisés entre 2018 et 2021. L'indépendance est rejetée par les électeurs de la Nouvelle-Calédonie, même si le dernier vote est boycotté largement par les indépendantistes, comme d'ailleurs en 1987. Mais pour Emmanuel Macron, pas question de rouvrir le processus de Matignon et de Nouméa. Il le dit en ces termes en juillet 2023.
Les trois référendums ont eu lieu. La Nouvelle-Calédonie est française parce qu'elle a choisi de rester française.
Alors Benoît Trépied, il faut se méfier évidemment des parallèles historiques, mais est-ce qu'on peut quand même faire un parallèle entre les situations de 1987 et celles que nous vivons actuellement? Parce qu'en 87, un boycott par les indépendantistes avait été le prélude à une période de violence. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut craindre aujourd'hui?
Sachant que des incidents limités, hein, qui ont toutefois blessé 5 gendarmes, ont éclaté à Nouméa lors de la dernière visite de Gérald Darmanin le 21 février dernier.
Oui, la situation est quand même très différente parce que les gens se parlent et parce qu'il y a 35 ans de paix derrière eux, derrière nous, alors qu'à l'époque, en 87, c'était vraiment un couteau tiré. Cela étant dit, le fait de détricoter le compromis du corps électoral qui est finalement une incarnation de cette citoyenneté calédonienne, de dire on est de ce pays et tous ensemble on trouve une solution, que cette solution soit dans la France ou pas, ou dans une indépendance, ou dans une indépendance association, le fait de toucher à ce corps électoral sans un accord global, ça peut être vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, moi, je suis très préoccupé pour l'avenir, en tout cas.
D'autant que tout ceci vient, et vous l'évoquiez tout à l'heure, à la suite du coup d'un processus référendaire. Le troisième référendum a eu lieu en décembre 2021, en pleine période Covid. À l'époque, avant la présidentielle, justement, vous aviez signé à l'époque une tribune pour demander un report. Vous qualifiez ce moment de passage en force, presque de hold-up. 56% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes. Pourquoi ça pourrait avoir une incidence sur le processus actuel?
Parce que la confiance entre l'État et les partenaires locaux a été rompue, parce que cette confiance, elle reposait sur l'impartialité de l'État et la mise à distance, à équidistance, des deux options. Or, lors du troisième référendum, effectivement, l'État l'a organisé dans une période qui coïncidait aux élections nationales. Là aussi, ça fait directement écho à ce qui s'est passé avec Ouvéa, qui était entre les deux tours de la présidentielle, et alors même qu'Edouard
Philippe... Et à une instrumentalisation politique de Jacques Chirac à l'époque.
Exactement. Ben là, on pouvait se poser aussi la question de l'instrumentalisation politique de la fin de l'accord de Nouméa comme un argument de campagne pour Emmanuel Macron, alors même qu'Edouard Philippe, en 2018, avait dit « il ne faudra pas que ce troisième référendum se tienne entre juin 2021 et septembre 2022 pour éviter le télescopage ». Et en fait, c'est vraiment une occasion gâchée parce que les deux premiers référendums, pour la première fois dans l'histoire de la Calédonie, étaient fondés sur un corps électoral qui faisait consensus. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord, que tous ceux qui pouvaient voter avaient légitimité à le faire. Et en fait, le resserrement des écarts après le deuxième référendum, et la possibilité que, pour la première fois, le « oui » l'emporte, a fait changer de braquer l'État et a fait complètement dévier le processus.
Voilà. Et on se doute, du coup, de la tension que ça peut créer. Vraiment, en un mot, est-ce qu'il peut... Vous parliez d'accord global. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut penser à un statut hybride qui ne reproduise pas des formes de violence? Comment on peut imaginer quelque chose pour la Nouvelle-Calédonie qui prenne en compte, justement, toutes ces questions?
Oui, la Calédonie a toujours fait preuve, finalement, d'inventivité politique, institutionnelle, etc., quand elle était au pied du mur. Et là, on y est vraiment. Il y a une perspective qui se dessine de plus en plus, qui est celle d'une indépendance en partenariat avec la France, une indépendance association qui ne sépare pas et qui unit. J'ai du mal à imaginer que le débat puisse aboutir à autre chose qu'à une sorte d'invention comme ça. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, il risque d'y avoir des tensions très fortes dans un camp ou dans l'autre.
Mmh. Merci beaucoup Benoît Trépied. Merci à vous d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur cette question. Cette émission a été préparée par Antoine Dulster, June Loper à la réalisation, à la technique, c'était Sébastien Royer.